Midi 30, 13h.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour Marina.
Bonjour Fabienne.
Ravie de vous accueillir dans ce journal de la mi-journée. À la une, les violences qui ont marqué l'acte 8 de la mobilisation des Gilets jaunes. Un homme qui boxe des gendarmes mobiles sur un pont parisien. Il a été identifié mais toujours pas interpellé. Autre image marquante, l'intrusion dans les locaux du porte-parole du gouvernement. Nous ferons le point sur l'enquête avec Louis Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Je souhaite que tous ceux qui croient à la démocratie disent ça suffit. Déclaration ce matin sur Europe 1 du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Vous l'entendrez. Réaction aussi dans le journal de Loïc Travers du syndicat Alliance. Toujours dans le journal de la mi-journée, Franck Ribéry qui écope d'une lourde amende après des propos sur Twitter. Le fils de Carlos Ghosn qui dit que son père ne lâchera rien. Le journal des sports avec la suite des 32e de finale de la Coupe de France de football. Le PSG affronte l'autre club amateur de Pontivy ce soir à Lorient. Et puis un peu de rêve dans ce journal avec ces objets connectés qui vont révolutionner notre quotidien. Ils seront au grand salon de l'électronique à Las Vegas cette semaine. On en parlera avec mon invité, l'écrivain Daniel Ishbia. Enfin, la météo, c'est maussade sur la plupart des régions, nous dit Valérie Darmon.
Europe 1.
L'acte 8 de la mobilisation des Gilets jaunes a donc été marqué par de nombreuses violences hier. Et il y a deux images qui vont rester, Chloé Triomphe. L'intrusion dans les locaux de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Et cet homme qui boxe à main nue un gendarme mobile sur un pont parisien. Cet homme qui a été identifié, Chloé.
Oui, il s'agirait d'un boxeur professionnel de 37 ans, Christophe D, originaire de l'Essonne, que l'on voit d'ailleurs parfaitement sur toutes les images de la scène qui circulent sur les réseaux sociaux. L'homme agit avec violence et précision à la fois. Il n'hésite pas à s'attaquer à main nue à un gendarme mobile, pourtant casqué et qui tente de se protéger derrière son bouclier. Et sur d'autres images, on le voit aussi rouer de coups un gendarme à terre. Le gendarme a été blessé à la tête, au torse et aux membres inférieurs, mais sans pronostic vital engagé. Et si une enquête a bien été ouverte dès hier. Le suspect, lui, n'est à cette heure pas encore interpellé.
Et quant à l'intrusion au ministère du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, les enquêteurs Triomphe travaillent actuellement sur les images vidéo.
Oui, parce que la scène a été intégralement filmée par les caméras de vidéosurveillance devant le ministère, ainsi que par plusieurs personnes présentes dans l'attroupement de manifestants rue de Grenelle. Et sur toutes ces images, on voit un chariot élévateur s'empaler dans la lourde porte cochère en bois, conduit par un homme vêtu d'un gilet jaune. Et à l'arrière de cette petite voiturette de manutention, on aperçoit aussi un autre manifestant debout, sautant de joie, les bras levés en l'air en signe de victoire, tandis qu'un autre les encourage en agitant son gilet jaune façon toréador devant la porte. Alors les dégâts sont matériels, porte défoncée, deux voitures dans la cour dégradée, mais les assaillants ne sont pas entrés dans les bureaux où Benjamin Griveaux et son équipe ont été mis en sécurité dès que le garde a donné l'alerte. L'enquête en est donc au début et là non plus, à la mi-journée, il n'y a encore aucune interpellation. Dernière précision, les suspects encourent jusqu'à 10 ans de prison.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Par ailleurs, ce sont 35 personnes qui ont été interpellé à Paris hier et placé en garde à vue. Réaction ce matin de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie sur Europe 1. Il en appelle aux Français pour défendre la démocratie.
Je pense qu'il y a aujourd'hui des forces qui veulent tout simplement mettre à bas la démocratie. Ils disent « nous sommes le peuple français ». Non, ils sont une minorité. Et en démocratie, c'est la majorité qui décide. Il faut écouter les minorités, bien entendu. Il faut écouter le cri de ceux qui aujourd'hui souffrent et ont besoin de cette justice. Mais je voudrais vraiment que chacun prenne conscience de la gravité de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une remise en cause de la démocratie, de la représentation, des institutions, des organes de pouvoir, de tout ce qui fait qu'une vie en société est possible et se fait dans les meilleures conditions possibles. Donc je souhaite que tous ceux qui croient à la démocratie, tous ceux qui croient à la représentation du peuple souverain, se rassemblent et disent « ça suffit ».
Bruno Le Maire qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bruno Le Maire qui par ailleurs a dit que le grand débat qui doit débuter le 15 janvier ne doit pas conduire à tout détricoter. Il ne veut pas par exemple que l'on revienne sur l'ISF. En revanche, la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% des ménages les plus riches pourrait faire partie des sujets de discussion de ce grand débat. C'est ce que dit Bruno Le Maire. Le gouvernement laisse ainsi la porte ouverte à une exclusion des ménages les plus aisés du bénéfice bénéfice de la réforme. Alors on l'a dit, l'une des images marquantes, ce sont ces gardes mobiles pris à partie sur ce pont parisien hier lors de l'acte 8 de la mobilisation des Gilets jaunes. À Dijon, ce sont plusieurs dizaines d'individus qui s'en sont pris à une caserne de gendarmerie. Deux hommes ont été blessés. Écoutez la réaction de Loïc Travers, secrétaire national adjoint en Ile-de-France du syndicat Alliance, sur le fait que les forces de l'ordre sont prises pour cible.
C'est le premier acte, on va dire, violent de 2019, mais ça fait suite à toute une série de violences commises contre les policiers et contre les institutions d'une façon générale. Pour être tout à fait objectif, le dispositif était adapté hier, et notamment le ratio manifestants annoncés et policiers mis en œuvre a parfaitement fonctionné, que ce soit pour encadrer les rassemblements qui étaient déclarés ou les différents rassemblements épars sur la capitale. Il n'y a pas eu de souci jusqu'à effectivement dans l'après-midi, où on a toujours cet instant critique de la dislocation de la manifestation, de la tombée de la nuit, effectivement, où il y a des éléments perturbateurs qui, alors même qu'ils ont été éjectés d'un rassemblement, se retrouvent en électron libre dans des rues adjacentes, dans des rues parallèles. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on a pu voir les incidents boulevard Saint-Germain. La particularité du boxeur, là, on a une situation un petit peu particulière, inédite, d'un type quasiment seul qui va s'en prendre à des gendarmes. Et malheureusement, on va devoir s'habituer à ce type d'action, entre guillemets coup de poing, pour pas dire commando, qui sont destinés effectivement à entretenir la flamme des Gilets jaunes, mais sous l'angle le plus obscur, puisque c'est ce qu'ils ont choisi comme type d'action.
Loïc Travers du syndicat Alliance avec Pauline Jacquot. Par ailleurs, notez qu'à Toulon, c'est un commandant de police qui a été filmé en train de frapper plusieurs personnes en marge d'une manifestation de Gilets jaunes. Ce commissaire divisionnaire a été identifié. Il a été promu dans l'ordre de la Légion d'honneur au mois de janvier. Pas de commentaire pour l'instant du côté de la préfecture du Var. Nouvelle mobilisation des Gilets jaunes à Paris ce matin, plus exactement de femmes Gilets jaunes. Vous êtes place de la Bastille à Paris, Romain Noquet. Pourquoi ce rassemblement uniquement composé de femmes?
Alors, ce sont pour la plupart des retraités ou des mères de famille, mais ici, pas de revendications féministes. Beaucoup disent que cela reste un jour de mobilisation comme un autre, avec les mêmes demandes que les Gilets jaunes. Slogans marseillaises et bonnets phrygiens sont donc de sortie. Et si certaines d'entre elles ont enfilé pour la première fois un gilet jaune, comme Fanny, c'est aussi parce qu'entre femmes, elles se sentent plus en sécurité.
C'est vrai qu'on se sent plus rassurée. On est avec des femmes aujourd'hui, entourées de femmes. Et dans la mesure où, les autres fois, on n'est pas venu parce qu'aussi on n'était pas rassurés de venir avec les violences qu'il y a. Aujourd'hui, on se sent un peu plus en sécurité. Et puis, on est là. On est là pour faire. Je pense que les CRS aujourd'hui seront plus vigilants à notre égard parce qu'on est des femmes. Et en tout cas, je l'espère. Moins de débordements aujourd'hui.
Car ici, beaucoup en effet condamnent les violences policières de la manifestation d'hier lors de l'acte 8. Des violences policières qui ont obligé les Gilets jaunes à répliquer, c'est ce qu'elles m'ont expliqué. L'intrusion dans le ministère de Benjamin Griveaux, par exemple, beaucoup disent comprendre la démarche, comme Stéphanie.
On vient, on marche, on est gentil, on se fait taper. Au bout d'un moment, il y a des gens qui sont un peu plus sanguins et qui ont envie d'aller à l'affront, tout simplement. À un moment donné, pour être écouté, il faut que ça pète. Et je crois que malheureusement, oui, il y aura de la violence, il y aura de la casse, tant qu'on ne sera pas entendu.
Des Gilets jaunes qui se disent d'ailleurs prêtes à renouveler ces mobilisations dédiées aux femmes, avec l'espoir de voir certaines rejoindre les rangs d'un probable acte 9 la semaine prochaine.
Romain Noquet pour Europe 1, place de la Bastille à Paris. À suivre, Franck Ribéry qui écope d'une lourde amende, décision de son club du Bayern pour sanctionner des propos sur Twitter.
Midi 40, vous écoutez Europe 1, votre journal de la mi-journée, Fabienne Lemoyle.
Et décidément, l'addition risque d'être salée pour Franck Ribéry, bien plus que le prix du morceau de bœuf recouvert de feuilles d'or qu'il a dégusté à Dubaï et qui fait polémique depuis plusieurs jours. Le Bayern de Munich vient en effet d'annoncer qu'il allait infliger une lourde amende à son attaquant. En cause, Hélène Cole, vous êtes notre correspondante à Berlin. Les propos de Franck Ribéry sur Twitter.
Oui, effectivement, les explications du directeur sportif du Bayern sont très claires ce matin. Franck, en tant que modèle, les joueurs du Bayern n'auraient jamais dû prononcer ces mots. Pas question de laisser passer les insultes, les vulgarités publiées par Ribéry sur les réseaux sociaux, notamment ses attaques personnelles, par exemple contre la journaliste Audrey Pulvar. Alors ici en Allemagne, la vidéo avec le steak doré à Dubaï a évidemment été vue et commentée. Elle faisait même la une du Bild-Zeitung vendredi, mais elle n'a pas donné lieu aux mêmes réactions qu'en France. On connaît bien en fait celui qu'on appelle ici assez affectueusement en français l'enfant terrible du football, qui a d'ailleurs déjà été sanctionné en novembre dernier pour avoir giflé un consultant de Bein Sport. C'est vraiment le deuxième volet de l'affaire qui a enflammé l'Allemagne, le texte de Ribéry très violent contre ceux qu'il appelle les rageux, les haters, les pseudo-journalistes. Il explique aussi qu'il a mérité l'argent qu'il dépense, qu'il fait régulièrement des dons. Le directeur sportif du Bayern dit comprendre cette réaction. Franck a voulu se défendre et défendre sa famille, car les messages visaient aussi sa femme enceinte et sa mère hospitalisée. Mais il a le droit de le faire, je le soutiens pour ça. Voilà les propos du directeur du club. Mais il a clairement dérapé, c'est aussi le mot qu'il utilise. Et ça, le Bayern ne peut le tolérer. D'où cette amende, on n'en connaît pas exactement le montant. La presse allemande parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. En tout cas, le milieu offensif s'est d'ores et déjà dit prêt à payer.
Hélène Kohl en direct de Berlin pour Europe 1. Carlos Ghosn, toujours en détention au Japon pour des soupçons de malversation financière. C'est mardi qu'il doit comparaître devant un tribunal pour demander une clarification des charges qui pèsent contre lui. Et pour la première fois, Pauline Jacquot, son fils prend la parole dans le journal du dimanche pour défendre son père.
Oui, il affirme son soutien. Anthony Ghosn veut montrer que la famille fait bloc derrière le patriarche. Son bilan est irréprochable. Ça fait 7 semaines qu'il se bat pour prouver son innocence et il ne lâchera rien, promet-il. Son fils, qui mise sur l'audience de mardi, tout le monde va être surpris, dit-il, en entendant pour la première fois la version des faits de Carlos Ghosn.
On en apprend aussi un peu plus, Pauline, sur les conditions de détention de Carlos Ghosn.
Oui, une résistance selon son fils. Carlos Ghosn a perdu 10 kilos depuis qu'il est en garde à vue. Il reste calme pendant les interrogatoires, notamment 1 à 3 fois par jour. Des sessions qui peuvent durer jusqu'à 2 heures. Les avocats de l'homme d'affaires n'ont pas encore eu accès au dossier. Une impuissance exprimée par son fils face à ce système judiciaire nippon. On demande à mon père, dit-il, de signer une confession en japonais alors qu'il ne parle pas la langue.
Pauline Jacquot, après donc ses déclarations dans le journal du dimanche. Cela fait plusieurs jours déjà que les galettes fleurissent dans les devantures de boulangeries. Mais pourtant, c'est aujourd'hui le jour J, celui de l'épiphanie, l'arrivée des rois mages. Et pour vous mettre en appétit, Nathalie Chevance, notre correspondante à Marseille, s'est rendue chez l'un des meilleurs spécialistes du gâteau des rois, car en Provence, c'est ce qui remplace la galette à la frangipane.
Tels des couronnes avec leurs pierres précieuses, les gâteaux des rois rivalisent de beauté dans la vitrine de Bernard Mandonato. Toutes les brioches sont différentes avec leurs décors de fruits confits pour symboliser les bijoux offerts par les rois mages.
Et ça a toujours été la tradition. Vous avez en majorité des melons qui me sont fabriqués par un artisan de la région de Hatte. Il y a des cerises, il y a des ananas, il y a des kiwis. Ça donne un parfum au gâteau, à la brioche quand on le mange en même temps. Il n'y a que des produits naturels de tous les vergers de Provence. Ben, le secret, c'est le soin apporté à la fabrication du gâteau, du pétrissage jusqu'au décor.
200 gâteaux sortent du fournil des rois chaque jour, dont la renommée dépasse largement la ville de Marseille.
J'ai un client qui est intéressé pour les faire goûter en Bretagne à des amis, qui veut que je les expédie par la poste, 5 ou 6 gâteaux. Voilà, donc je vais lui expédier.
Le gâteau des rois qui détrône toujours la galette, Pierre, chef d'entreprise, repart avec 3 brioches sous le bras.
Celui-là, il est destiné à mon personnel et ceux de là vont partir à Lyon chez des amis. C'est très gourmand, mais les galettes, on laisse ça aux Parisiens.
Avec ici en prime, dans le gâteau des rois, une vraie fève et un santon. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Le journal des sports.
Avouez, Simon, Rubin, un peu de sport après la galette, effectivement. Alors on commence avec du football et la suite des 32e de finale de la Coupe de France.
Et hier soir, un pas de miracle pour Bourges, battu par l'Olympique Lyonnais 2-0. Cet après-midi, dès 14h15, Marseille se déplace à Andrézieux dans la Loire. L'OM, alors qui n'a pas convaincu, qui a même un peu inquiété depuis le début de saison, sans pour autant présenter un bilan catastrophique. Et pour l'entraîneur Rudy Garcia, l'enjeu cet après-midi est double. Gagner d'abord, mais surtout lancer une toute autre dynamique pour l'année qui débute.
On va bien évidemment tout faire pour se qualifier, c'est notre objectif. Mais il faudra absolument respecter cet adversaire, aucun match n'est gagné d'avance. Voilà, mais on veut, à l'occasion justement de 2019, repartir du bon pied et avec beaucoup beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir et la Coupe de France, c'est aussi la fête. Voilà, maintenant, il n'y a qu'un objectif, c'est de passer et d'être au tirage des 16e de finale.
Rudy Garcia au micro de Yann Terrou. Alors, parmi les autres rencontres, hein, quelques chocs entre clubs professionnels comme Rennes-Brest, Reims-Lens, Toulouse-Nice ou encore Bordeaux-Le Havre.
Et puis l'affiche ce soir opposera un amateur, Pontivy, au meilleur club français de PSG.
Et 20h45, un choc des civilisations. Ce sera donc le deuxième club et de oui. La ville de Pontivy à jouer en deux jours, hein, après la défaite hier du stade pontivien face à Guingamp. Toutefois, il serait un peu faux de penser que ce match, c'est finalement la confrontation entre un petit amateur bien sympathique et un ogre de Ligue 1, car la GSI Pontivy a bien préparé son match. Écoutez le programme concocté par l'entraîneur Yannick Blanchard.
On ne peut pas le préparer comme tous les autres matchs. Il y a une préparation spécifique depuis 3 semaines. On n'a pas du tout coupé pendant les fêtes. Les joueurs ont juste eu 2 jours pour Noël et 2 jours pour le 31. Donc on le prépare avec une préparation physique spécifique sur cet événement-là, avec une analyse vidéo, avec l'intervention d'un préparateur mental aujourd'hui et demain. Donc voilà, on met tous les atouts de notre côté et tout ce qu'on met en place voilà, nous montre qu'on essaie de faire montrer aux joueurs avec tout le staff technique que, voilà, on prépare un vrai match pour faire un vrai match, pas juste un match de gala pour échanger les maillots. Mais on veut vraiment qu'il y ait un match de foot, même si c'est voilà, le poids lourd contre le poids léger. Mais on veut montrer un beau visage et on veut essayer de les mettre en difficulté avec nos qualités.
Et si avec tout ça, Pontivy n'y arrive pas, là on ne sait plus que faire. Yannick Blanchard qui était au micro de Julien Froment.
On se demande qui est l'équipe de Ligue 1, effectivement, c'est en vrai. Écoutant ce témoignage. On termine avec le reste de l'actualité en bref, en commençant par le ski.
Et ça va mieux physiquement pour Alexis Pinturault. Il était cette semaine blessé au dos. Il a participé il y a quelques minutes au slalom de Zagreb et après la première manche, il est dans le coup, pas loin du podium à la 5e place. C'est l'Autrichien Schwartz qui est en tête devant Marcel Hirscher. Et puis en rugby, Toulouse, leader provisoire du top 14 après son succès à Agen hier. Mais Clermont peut reprendre la tête à la faveur de la réception de La Rochelle, qui est 3e du classement, et c'est cet après-midi.
Merci beaucoup Simon Rubin. Il nous reste à voir le temps de ce dimanche et ça reste bossade sur la plupart des régions, Valérie Darmon.
Absolument Fabienne, et c'est toujours aussi simple. Une épaisse et tenace grisaille qui concerne les 3/4 de la France. Le nord jusque sur l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. On y oublie totalement le soleil et même la luminosité jusqu'à ce soir. Il neigeote toujours sur l'est à partir de 300 à 500 mètres d'altitude et il va pleuvioter sur la Manche dans l'après-midi. Des Pyrénées orientales jusqu'aux Alpes et Méditerranée, en revanche, là vous êtes beaucoup mieux lotis. Le soleil brille avec toujours du Mistral et de la Tramontane soufflant jusqu'à 100 km/h. Les températures sont 2 à 3 degrés sous les normales de saison, avec des maximales entre 1 à Saint-Étienne et 14 à Manosque, 4 annoncés à Strasbourg, 5 degrés à Biarritz, 6 à Paris ou encore à Nantes, 7 degrés à Lille et 8 degrés à Brest. Est-ce que le temps va évoluer demain ? Eh bien, absolument pas. Il reste imperturbablement gris et sec du Pays Basque au Hauts-de-France et toujours beau en PACA.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Dans un instant, allez, on va rêver un peu. Je vais vous faire découvrir les objets qui vont révolutionner votre quotidien. On en parle avec mon invité Daniel Ishbia, alors que s'ouvre le grand salon des innovations technologiques à Las Vegas cette semaine.
Midi 50, la suite de votre journal de la mi-journée avec vous, Fabienne Lemoyle et votre invité.
Et allez, soyons fous, on va imaginer le monde de demain pour continuer ce journal. C'est mardi que s'ouvre à Las Vegas le Consumer Electronics Show, formidable vitrine de toutes les innovations technologiques qui vont révolutionner notre quotidien, nous faciliter la vie avec toutes sortes d'objets connecté. Bonjour Daniel Ishbia.
Bonjour.
Écrivain spécialiste de ces nouvelles technologies. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, aux éditions La Martinière. Déjà Daniel Ishbia, ce grand salon de Las Vegas où la France était quand même, je crois, l'an passé, le deuxième pays représenté, c'est toujours une formidable vitrine. Ça ne relève pas uniquement du gadget.
Non, c'est très important, par exemple pour les startups françaises qui sont là-bas, pour se faire montrer et puis pour trouver des financements, que ce soit chinois, japonais, américain.
Et combien de startups françaises couronnées, je crois ?
Il y en a déjà 57, c'est énorme. 57 sur quelques centaines de startups internationales. Donc c'est vraiment énorme.
Qu'est-ce qui vous marque cette année, justement ? Le fait qu'on peut tout obtenir, par exemple, d'un mot avec notre voix. On a beaucoup parlé des assistants vocaux.
Oui, Amazon a dépassé les 100 millions... les 100 millions de Alexa, c'est-à-dire son assistant vocal qui est dans la maison. 100 millions, c'est énorme, quoi. Et Apple, en revanche, fait la pub sur le fait qu'elle ne garde pas nos données.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme application, justement, concrète ?
Par exemple, pour avoir un rendez-vous le matin et on veut que savoir combien de temps ça va prendre, on va parler à son assistant, on va lui dire combien de temps ça va me prendre pour me rendre à mon rendez-vous, sachant qu'il y a des travaux sur la Nationale 2, etc.
Vous me disiez pour remplir son frigidaire aussi.
Oui, aussi, on pourrait très bien avoir, parce que ces machines vont devenir de plus en plus intelligentes, on va lui faire une commande de victuailles, et puis il va dire, attention, tu oublies qu'il n'y a plus de l'aide sociale dans le frigidaire. Le réfrigérateur va communiquer avec l'assistant vocal.
Alors, ça nous fait vraiment rêver, ces objets connectés. Qu'est-ce que ça peut changer dans notre quotidien, réellement ?
En un mot, on a eu Internet dans les ordinateurs. Maintenant, on va l'avoir dans quasiment tous les objets. Et ces objets vont communiquer entre eux. Prenons un exemple. On a un aspirateur robot qui rentre dans la maison. Il va être reconnu par les autres objets. Peut-être la table du salon, la table chinoise, qui a une puce à l'intérieur, va lui dire « Attention, j'ai une patte qui est très fragile. Quand tu passes à côté de moi, fais vraiment attention. » Peut-être que dans un certain coin de la maison, il va lui dire « Là, il faut que tu passes la balayette parce que tu ne pourras pas passer comme tu es rond et il faut vraiment que tu frottes bien ici, là où je suis. »
Là, on parle effectivement de reconnaissance avec une puce. On parle aussi de reconnaissance, on disait, avec la voix, mais il y a aussi l'image. Vous me disiez « J'arrive devant chez moi et là, qu'est-ce qui se passe ?»
Oui, on va être reconnu par son empreinte digitale. Il y aura plusieurs systèmes qui vont converger pour vérifier qu'on est bien nous-mêmes. Avec le visage. Bon, le seul problème, c'est que, par exemple, si le fils rentre, je sais pas, de Saïgon où il est allé en vacances et qu'on ne l'a pas fait identifier, il ne pourra pas rentrer dans la maison.
Alors, je disais, ça fait rêver, cet aspirateur qui se déplace comme ça dans la maison. Mais est-ce que, à force d'être transparent, d'être connecté, on ne devient pas fragile ? Nos données personnelles, justement, ne vont pas être captées dans tous les sens ?
Bien sûr, ça devient un argument de vente, comme je disais. À Las Vegas, Apple fait la publicité là-dessus en disant « Nous, nos données, elles restent dans votre appareil. »
Parce que c'est ce qu'on a beaucoup reproché justement aux GAFA.
Bien sûr, totalement. Non mais c'est vrai, c'est le revers de la médaille, on ne peut pas aller contre. Par exemple, sur Google, l'assistant personnel de Google garde les données si on ne va pas les supprimer soi-même. Il faut faire l'acte soi-même.
Et quel est le danger ?
Le danger est... Il n'est pas énorme parce que ce sont des sociétés qui veulent nous garder comme clients, donc elles ne vont pas faire des choses. Mais malgré tout, je veux dire, en Chine, Yahoo a dénoncé des gens qui participaient à des manifestations parce qu'ils voulaient bien se faire voir du gouvernement chinois. Le danger, c'est que s'il y a un régime qui exige ces données et que les GAFA cèdent, là, ça peut être embêtant.
Pour revenir par rapport à ce grand salon de Las Vegas qu'on suit effectivement chaque année avec ces objets de plus en plus connectés, qu'est-ce qui vous marque justement ? Parce que c'est vrai qu'on a dit parfois des objets sont sortis, on a parlé par exemple des lunettes Google. Vous me dites, elles réapparaissent tout d'un coup parce que qu'est-ce qui manquait en fait ?
Il manquait la 5G, c'est-à-dire que si on achète des lunettes et qu'elles vont marcher uniquement à Paris ou dans des villes très très connectées mais qu'on va dans le fin fond de la campagne et ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Donc, pour l'instant, on est un petit peu comme au début d'Internet où on avait les modems un peu lents. Donc, on est dans une évolution.
On est un peu à la croisée des chemins, vous me disiez.
Oui, c'est ça. La technologie doit galoper pour suivre tout ça.
Sur quoi on doit s'attendre au plus d'innovations technologiques dans les années qui viennent, justement ?
Ah ben, j'ai déjà énormément de technologies donc vont converger pour nous donner ces objets intelligents et connectés. Mais on va déjà en avoir à Las Vegas, on va avoir des voitures autopilotées, ça devient de plus en plus courant.
C'est-à-dire ?
Mais également qui piloteront toutes seules. Et il faut savoir en plus que ça va même réduire les embouteillages parce qu'elles vont pouvoir de plus en plus prendre en compte les autres voitures et adapter leur comportement afin qu'il y ait une circulation globale efficace. Mais on va également avoir une voiture, elle sera rouge parce qu'on a rendez-vous avec sa copine et puis elle sera bleue le soir parce qu'il faut qu'on ait quelque chose de plus classique, on va pouvoir changer le look de la voiture par télécommande, on va pouvoir faire énormément de choses comme ça.
Où ça peut être révolutionnaire, c'est aussi dans le domaine de la santé, c'est là qu'il peut y avoir le plus d'exploration.
Tout à fait, dans la santé c'est énorme parce qu'il y a énormément de capteurs, il y a par exemple une société française là-bas qui présente des chaussures Avon par exemple, ce sont des chaussures, si une personne âgée tombe par terre, ses proches seront prévenus. On a également un bracelet pour les femmes qui pourraient se faire agresser, là qui est proposé par une autre start-up française qui est résonante. On a énormément d'applications comme ça pour protéger les gens.
Et aussi pour découvrir tout ce qui peut être dangereux dans notre environnement, je crois.
Exactement, tout à fait. Là, c'est une application de Myrcène, c'est ça, tout à fait.
Et qui va permettre quoi, par exemple, de reconnaître ?
Il va permettre de reconnaître s'il y a des particules qui sont dangereuses dans l'environnement.
et donc d'agir en conséquence.
Absolument.
Donc on le voit, un formidable vivier, effectivement, c'est des innovations technologiques, tout en gardant effectivement la sécurité de ces données personnelles qui partent un petit peu dans la nature avec ces objets connectés.
C'est sûr que c'est le revers de la médaille, il n'y a pas... c'est sûr.
Donc c'est là-dessus qu'il faudra peut-être effectivement avoir un contrôle. Merci beaucoup Daniel Ijba, je rappelle, écrivain spécialiste des nouvelles technologies, de nous avoir fait rêver avec ces innovations qu'on va voir apparaître. Et on les suivra au fil de la semaine sur Europe 1 avec nos envoyés spéciaux à Las Vegas pour ce Consumer Electronics Show, puisqu'on retrouvera nos envoyés spéciaux Paul Lassen, François Geffrier et Grégoire Martinez. Et je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, aux éditions La Martinière. Merci beaucoup. À 13h, vous retrouvez des Carnets du Monde avec Sophie Larmoyer, une grande page spéciale Brésil. Après l'intronisation du nouveau président Jair Bolsonaro, Sophie reçoit le grand auteur brésilien Milton Atum. Nous irons aussi en Espagne avec l'arrivée massive de jeunes Marocains. Et puis, si vous n'avez pas encore eu une indigestion pendant le réveillon, vous découvrirez qu'on fait aussi du foie gras en Égypte.
Et on vous retrouvera également dans un instant, Fabienne Lemoyle, pour l'essentiel de l'actualité.